Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur déjà. Avec des si, comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Walid Acharchour et de Jonathan McCardy avec vous sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio et au 32-16, bien entendu. On a fait une grosse page Alexis Sanchez qui a été présenté aujourd'hui en tant que nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Olivier Létang, il était l'invité de BFM Lille aujourd'hui. On l'a écouté avec Jean Baumel il y a quelques instants. Tout cela retrouvé bien sûr sur rmcsport.fr. On va faire du Monaco dans quelques instants qui a été sorti hier en tour préliminaire de Ligue des Champions. Mais avant cela, ça vient de démarrer entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort, ça se passe au stade olympique d'Helsinki en Finlande. Super Coupe d'Europe qu'on va suivre, qu'on va vivre avec Clément Brossard. Salut Clément.
Salut Nico, salut Jonathan, salut Walid, salut à toutes et à tous.
Salut Nico.
0-0 hein, après une minute de jeu entre le Real et l'Eintracht. Copier-coller hein, le 11 de Carlo Ancelotti par rapport à ce qu'on avait vu en finale de Ligue des Champions. Hein.
Exactement, ce sont d'ailleurs les mots du coach italien. Remettre ceux qui ont gagné cette Ligue des Champions face à Liverpool au Stade de France. Et donc le 11 est le même avec Thibaut Courtois dans la cage, Ferland Mendy sur le côté gauche, Daniel Carvara à la droite, la charnière composée d'Alaba et de Militao, Casemiro, Kroos et Modric dans l'entrejeu, Vinicius sur le côté gauche, à droite Federico Valverde et puis devant Karim Benzema qui pourrait aujourd'hui en cas de but eh bien dépasser Raoul et devenir le deuxième meilleur buteur seul de l'histoire du Real Madrid et pourrait aussi soulever son premier trophée en tant que capitaine du Real. On a quasiment fait la même chose du côté de l'Eintracht Francfort, les hommes de Olivier Glasner qui seront quasiment les mêmes que ceux qui ont remporté la Ligue Europa face aux Rangers. Il y a quelques petits ajustements tout de même puisque il y a un joueur qui est parti ou notamment qui est en instance de transfert pour rejoindre la Juventus, il s'agit de Philippe Kostic remplacé par Jasper Lindstrom au milieu de terrain, mais sinon Kevin Trapp est bien là, le français Van Ndicka est bien là, mais l'information aussi côté Francfort c'est que Randal Kolo Muani, l'ancien Nantais, est sur le banc de touche au départ de cette rencontre, lui qui a marqué face au Bayern le week-end dernier lors de cette première journée de Bundesliga.
Ouais, il a fait une bonne entrée, c'est bizarre qu'il soit sur le banc.
Le micro est ouvert, hein, Clément, bien sûr, s'il se passe quelque chose entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort dans cette Super Coupe d'Europe. Et bien l'Europe, on y est justement, et vous étiez peut-être, on l'espère en tout cas avec nous hier soir sur RMC, pour vivre le troisième tour préliminaire retour de Ligue des Champions de Monaco. L'ASM était à Eindhoven pour y affronter le PSV. Philippe Clément se voyait favori, mais...
Pour moi, mentalement, nous sommes le favori. Parce que je suis certain que physiquement, nous sommes meilleurs. Mais on doit prouver sur le terrain.
Ça revient sur Capagnata, le ballon. Benitez qui est mal sorti. Marifan, le ballon.
Marifan,
le but. Voilà. L'égalisation. Et Marifan qui profite du cafouillage. Et l'égalisation de l'AS Monaco. La vitesse de Gelson Martins. Gelson Martins qui va rentrer dans les 30 derniers mètres. Le centre au deuxième poteau pour Bayadès.
Et le but.
Voilà. À 20 minutes de la fin de ce match retour, l'AS Monaco a renversé la situation.
Dans Carlier, dans score, notre petit Gutiérrez met het 2-2.
Deze is goed, de kop al daar, het doelpunt aan Luc de Jong. Luc de Jong, 3-2.
C'est terminé, l'AS Monaco, c'était à 2 minutes près d'avoir ce ticket pour le barrage. Ils ont cédé à la 88e et ils ont cédé en prolongation sur Luc de Jong. Quelle désillusion!
Ça, c'est les choses cruelles de foot qu'on a dominé les deux matchs. Les deux matchs, nous avons eu plus des occasions que PSV.
Prod signé de notre réalisatrice Suzanne Fauny avec les mots de Philippe Clément, l'entraîneur de l'ASM d'avant et d'après match. Et alors Walid, toi t'as un avis tranché ce soir qui concerne l'ASM, tu considères qu'on est trop gentil avec Monaco, hein, ouais. Qui a été sorti une fois de plus en tour préliminaire de Ligue des Champions.
Hein. Oui, je trouve qu'on est très gentil avec Monaco dans nos analyses, dans ce qu'il en découle, sur la pression qu'on met à un club comme Monaco par rapport à ce qu'ils sont dans ce championnat. Pour moi, Monaco doit être une locomotive en Europe derrière le Paris Saint-Germain. Et quand on conjugue les deux dernières campagnes en Ligue des Champions avec la dernière de Jardim où ils terminent quatrième dans le groupe de Leipzig, Porto, celle où ils envoient la Youth League avec Thierry Henry où ils terminent encore quatrième et les deux barrages contre le Shakhtar, contre le PSV et entre-temps le huitième de finale en Europa League contre Braga. il y a 4-5 mois où c'était jugé comme un très très bon tirage en 8e d'Europa League, et ils se sont fait sortir de façon assez triste. En fait, pour moi, on est très très loin du compte côté Monaco, et je trouve qu'on le dit pas assez par rapport au standing de ce club en Ligue 1, par rapport aux investissements, par rapport au talent aussi des joueurs et de l'équipe. Et moi, je trouve que ça symbolise un peu les 3-4 dernières années en termes de gestion, l'instabilité des coachs. On pourrait faire une mort subite avec Jonathan du nombre de coachs qui sont passés sur les 4-5 dernières années. Le manque de recrutement au poste clé, parce que encore une fois hier, moi je suis désolé, mais
il y a eu Jardim, il y a eu notre ami Kovac,
Moreno, retour de Jardim, ça fait quand même beaucoup. On en avait parlé l'année dernière du changement de Kovac. Il y avait beaucoup de débats sur est-ce qu'il fallait changer ou pas. Au-delà des coachs, il y a aussi les secteurs clés, parce que moi je suis désolé, mais les causes produisent les mêmes effets. On avait dit l'année dernière que défensivement, en Europe, il fallait un défenseur de haut niveau à Monaco, qu'il fallait se renforcer. L'année dernière, ça n'avait pas suffi, ni contre Braga, ni contre le Shakhtar. On repart avec à peu près la même charnière centrale, Maripane, Badiachil.
Walid, la défense centrale, c'est un problème à Monaco depuis l'année du titre.
Exactement.
Deux joueurs qui ont fait des saisons énormes.
D'ailleurs, Malamsar a été officialisé aujourd'hui.
Ouais, aujourd'hui,
avec
Glick et Jemerson, qui avaient fait une saison qu'ils n'ont pas refait depuis, mais depuis, ce poste-là, c'est un vrai souci, et ils l'ont pas résolu
c'est problématique. Malangsar qui vient d'être officialisé,
ça c'est quand même assez fou. Moi je me suis fait la même réflexion en disant à 24 heures près on arrive bien.
Exactement. Tchouaméni qui est quand même aujourd'hui international français, qui est sur le banc du Real Madrid, qui a été vendu pour 120 millions d'euros, n'a pas été remplacé. Quand on voit le match de Fofana, et à côté, malheureusement, il est esselé parce que le petit Matazo, il est pas prêt, parce que Jean-Lucas, quand tu as la solution Jean-Lucas pour rentrer sur une prolongation, pour jouer ton avenir de la saison, je suis désolé, moi, pour un club comme Monaco, c'est pas suffisant. La question du gardien, ça fait quand même 2 ans qu'on en parle, 2 ans et demi, on dit que c'est léger, sur ce genre de rencontre où dans les deux surfaces, tu as besoin d'avoir des arrêts, un côté décisif, je suis désolé, moi, encore une fois, je trouve que ce problème-là n'a pas été réglé. Et en fait, j'ai l'impression aussi que dans ce contexte un petit peu à Monaco, où il n'y a pas de pression, où tout le monde est un peu gentil, tout le monde est un peu sympa, que les joueurs...
Oui, mais ça les a pas empêchés de gagner le titre il n'y a pas si longtemps que ça, finalement.
Bah oui, mais ça commence à remonter. Nico,
ouais.
Ça fait quand même 3-4 ans.
Walid, ça peut pas être juste le contexte, parce que avec ce même contexte, Nico a dit, ils ont été champions.
Depuis, attendez, si vous voulez, on peut parler de 2004, si vous voulez, on peut parler de ce que vous voulez.
Ce que je veux dire par là, c'est que le contexte, quand ils gagnent, c'est le même, finalement.
Oui, non, mais je trouve qu'il y avait un peu plus de pression, mais il y avait en tout cas, peut-être, un effectif beaucoup plus concerné à l'époque. Avec des tauliers.
Ah oui.
Et là, aujourd'hui, quand je vois, par exemple, Golovin, depuis qu'il arrive à Monaco, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais c'est les montagnes russes, excusez-moi du jeu de mots. Quand on voit Volante, depuis un an et demi, il avait fait une belle première saison. Depuis, quand tu vois sa double confrontation, déjà l'année dernière, contre Shakhtar, ça avait été problématique. Là, c'est la même chose. Voilà, je trouve que il y a pas ce côté, un peu comme à l'OL, un peu comme à Marseille, un peu de pression, où tu peux avoir des joueurs qui, traverse des saisons qui ont été achetées quand même pour beaucoup d'argent, et je trouve que même nous dans nos analyses on est plutôt Monaco, ils se font sortir contre le Shakhtar, contre le PSV, contre Braga, c'est pas si grave que ça. Et puis de toute façon, juste pour terminer Jonathan, et puis de toute façon quoi qu'il arrive, et ça je n'impute pas que à Monaco, mais si on rate 3 mois dans l'année, on va quand même faire podium, parce que si on se met à l'endroit pendant un mois et demi, on fera une série et tout ira bien. Et je trouve que vraiment ce contexte à Monaco, que ça soit en haut, dans le board, chez les observateurs et les joueurs, je trouve qu'aujourd'hui, on est trop gentil.
Et si le problème...
On vous attend un supporter de l'ASM au 32-16.
Et si le problème de Monaco, c'était pas Damien Perrinel?
Bien sûr. Et puis quand il est là-bas, tout fout le camp.
En fait, Walid, t'as tout dit, mais je pense qu'il faut ajouter une chose, c'est que quand on a parlé des équipes de Monaco qui gagnent, on pourrait revenir à celle de Deschamps, c'est que à chaque fois, t'as un entraîneur qui fait que le contexte un petit peu feutré, tranquille, sans pression, n'existe pas. Des entraîneurs comme Deschamps et Jardim qui sont capables de coller la pression aux joueurs 24 heures sur 24. Et ça, c'est quand même hyper important.
Là, je te dis pas qu'il a voulu le faire. Au bout de 6 mois, au bout d'un an et demi, il a sauté parce que le vestiaire ne répondait plus.
Je te dis pas que Clément n'est pas capable de le faire, mais en tout cas, pour l'instant, je demande à voir. Après, le vrai problème de Monaco, c'est bizarre de dire ça, mais c'est leur budget. C'est-à-dire qu'ils ont le budget pour se permettre de faire des saisons où tu n'es pas forcément qualifié directement pour les Ligues des Champions.
Ils ont le budget. On devrait voir le truc à l'envers.
Ils ont le budget. Ils ont pas, tu vois, cette espèce d'urgence financière qu'a par exemple l'Olympique de Marseille. Ouais. Tu sais que si t'es Marseille, si tu te qualifies pas directement en Ligue des Champions, c'est un désastre pour le prochain mercato.
Mais pour notre championnat, c'est un désastre.
Après, de Walid, c'est que la pression aussi populaire fait que c'est la grosse différence. Quand t'es le quatrième budget de Ligue 1 comme les Monaco aujourd'hui, si c'est Marseille, les supporters vont se dire attends, on a le quatrième budget, gars, on n'y va pas.
C'est que de dire que Monaco c'est le quatrième budget, ça veut rien dire parce que t'as aussi les avantages fiscaux.
Bah, d'autant plus alors.
Dans les faits, c'est le deuxième budget de Ligue 1.
Bah, d'autant plus.
Mais ils ont tellement d'argent qu'en fait, ils ne dépendent pas des résultats. Contrairement à un club comme Lyon qui est coté en bourse, contrairement à un club comme Marseille qui marche sur des œufs avec ses finances. Et je dirais pas que c'est une malédiction d'être serein financièrement, mais dans ce cas-là précis, ça ne les aide pas. Et la deuxième des choses, c'est que concrètement. Alors, c'est lié à ce que je viens de dire, hein, sur cette sécurité financière qui les empêche de se transcender, mais moi, je sais pas quels sont les objectifs de Monaco en début de saison. Est-ce que c'est de se positionner clairement comme un vrai rival pour le PSG?
Non, mais c'est Ligue
Est-ce
des Champions.
Est-ce que c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions?
Bah, oui.
Mais c'est jamais vraiment très clair. Et juste pour finir, Nico, moi, ce qui m'embête, c'est que le board monégasque ne raconte aucune histoire. La construction du club, dans ce que tu veux faire, dans la création de l'aventure autour de ton club, ce board-là ne raconte rien. Si ce n'est cette histoire de on est un club dans une jolie région de France avec de l'argent. C'est quand même un peu
triste. Bah tiens, tu sais quoi, sur les objectifs de Monaco, Philippe Clément, après l'élimination d'hier hein, face au PSV, il a un petit peu expliqué ce qu'étaient les objectifs de Monaco en disant qu'il fallait absolument que l'équipe se remette la tête à l'endroit.
Le plus important reste maintenant la réaction. L'équipe, les joueurs, ils doivent prendre les leçons que l'année passée parce que la déception a resté trop longtemps dans la vestiaire. À cause de ça, ils ont manqué trop de points dans le championnat. Et à la fin, le club a manqué la Ligue des Champions. On ne peut pas faire cette erreur la deuxième fois.
Voilà, tu vois. Donc, en gros, l'objectif, c'est la Ligue des Champions.
Bien entendu. Mais on l'a vu quand Kovac est parti.
Oui, parce qu'il y avait. Il se fait virer à cause de ça.
Parce qu'il voulait une équipe un peu plus spectaculaire, parce qu'il voulait aller chercher notamment cette deuxième place. Et malheureusement, moi, je suis désolé, mais ce que dit Jonathan, moi, je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas ce raisonnement. Parce qu'ils ont de l'argent. Parce que ils peuvent entre guillemets se passer de la Ligue des Champions.
Je comprends ce qu'il veut dire. Donc ça va dans le sens de ce que tu dis toi.
C'est bien.
Du fait, je pense que vous avez
juste leur manière de penser.
Vous dites à peu près la même chose, mais de façon un peu différente. C'est-à-dire que toi, tu dis il y a pas de pression, donc ça, en gros, ça les booste pas. Il te dit le fait qu'il y ait pas de pression, mais qu'ils aient de l'oseille, ils peuvent se permettre finalement de faire un faux pas.
Mais c'est dramatique.
Mais ça fait quand même beaucoup de faux pas. Et puis surtout,
j'ai pas pris
que le Shakhtar et j'ai pas pris que le PSV. Je répète, mais les deux dernières. C'est quatrième sur les deux dernières campagnes de Ligue des Champions. Si c'est l'OM ou si c'est Lyon, c'est pas du tout la même chose.
C'est zéro point sur les deux dernières phases de groupe de Ligue des Champions.
Je crois que c'est un ou deux, mais c'est quatrième place.
Zéro victoire.
Mais c'est un point et deux points. Ouais. Quand on regarde Braga, huitième de finale d'Europa League, tu joues Braga à l'aller et au retour. Tu ne gagnes pas un match. Mais Monaco aujourd'hui sur l'indice UEFA du championnat de France. Mais c'est problématique pour notre championnat, je sais pas.
Pour le ranking UEFA, c'est pas bon, surtout que c'est les Néerlandais
le problème, Walid, c'est que dans ce club-là, il y a aucune pression, que ce soit populaire ni financière, et que on est un peu perdu quand on est supporter de Monaco. Et je le maintiens, je pense que même les propriétaires monégasques ne savent pas ce qu'ils veulent faire de ce club-là. Alors, ils sont intrinsèquement dans les places européennes parce qu'ils ont de l'argent et qu'ils achètent des bons joueurs. Mais si j'aimerais bien avoir une interview d'un dirigeant monégasque qui nous explique quel est le projet sur le moyen terme de ce club-là. Et j'ai vraiment du mal à savoir. Tu vois, par exemple, Olas et Textor nous ont expliqué ce qu'il va faire sur le moyen terme. Marseille, il y a un projet.
Michel a expliqué.
Oui. Et c'est quoi alors?
Il veut être Ligue des Champions tous les ans. Il veut valoriser les joueurs. Il veut faire ce que Campos faisait.
C'est Marseille, sauf qu'on en parle moins, mais c'est la même chose.
Le projet marseillais, il est quand même un peu plus étayé. Il est un peu plus étayé sur quelles sont les ambitions.
Normalement, Monaco devrait avoir beaucoup plus de certitude que Marseille.
On revient dans quelques instants, les gars, avec notamment Adrien, supporter de Monaco qui nous a appelé au 32-16. On va aller faire un petit détour dans quelques instants avec Clément Brossard du côté d'Helsinki. Super Coupe d'Europe entre le Real et l'Eintracht 0-0. On approche du quart d'heure de jeu. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Avec Walid Acharchour, Jonathan Macardy, 21h17, vous êtes sur RMC dans l'After, on est ensemble jusqu'à minuit comme chaque soir. Bien entendu, il y a la Super Coupe d'Europe ce soir entre le vainqueur de la Ligue des Champions, le Real Madrid, et celui de l'Europa League, l'Eintracht Francfort. On vit ça avec Clément Brossard. Clément, il y a déjà une occasion partout et dont une à l'instant même pour le Real. Grosse occasion pour Vinicius Junior.
Énorme occasion, c'est vrai, après 17 minutes de jeu pour le Real dans ce stade olympique d'Helsinki, avec un bon débordement d'abord de la part de Federico Valverde qui trouve Karim Benzema dans la surface de réparation, la vista de l'international français pour trouver Vinicius et prolonger ce ballon, et puis la frappe du Brésilien qui tombe sur Tuta, son compatriote, le défenseur central de Francfort, qui sauve ce ballon juste devant sa ligne. Avant cela, il y avait une première occasion également pour Francfort après une perte de balle de Ferland Mendy, et c'est finalement le japonais Daiki Kamada qui s'est présenté face à Thibaut Courtois qui s'est bien couché, et puis un autre avertissement avec ce joueur danois Jasper Lindstrom de Francfort qui est parti au but à la limite du hors-jeu, et le drapeau s'est levé. D'ailleurs, concernant les hors-jeux, il y a une petite nouveauté ce soir qui aura la présence aussi, qui sera présente du moins pendant la Coupe du Monde et également lors de la prochaine campagne de Ligue des Champions, c'est le hors-jeu semi-automatique. Pour vous expliquer très rapidement, il y a des caméras qui sont présente au stade, 12 caméras qui surveillent les déplacements des joueurs et du ballon. Ça permet de faciliter la détection des hors-jeux et d'accélérer un petit peu la prise de décision. 29 points corporels différents par joueur. Voilà ce qui pourrait aider encore un peu plus les arbitres avant de prendre la bonne décision. 0-0 dans cette Super Coupe d'Europe après 18 minutes de jeu.
Voilà, et tu interviens dès qu'il se passe quelque chose, mon cher Clément. Nous, on était du côté de Monaco. Monaco qui ne sera pas en Ligue des Champions cette saison. Qualifié directement pour la phase de groupe d'Europa League, puisqu'ils ont disputé ce troisième tour préliminaire en qualité d'équipe passant par la voie de la Ligue, comme on l'appelle. Et du coup, Monaco qui ne sera pas en Ligue des Champions. Et il y a Adrien, supporter de l'ASM, qui nous appelle au 32-16. Salut Adrien.
Salut à tout le monde.
Salut Adrien.
Alors Adrien, est-ce que tu es d'accord avec Walid qui dit on est trop gentil finalement avec Monaco qui se fait sortir encore une fois avant d'atteindre la phase de groupe de Ligue des Champions?
Alors Walid, je ne peux que être d'accord avec lui parce que je suis dégoûté.
Alors au bout de ta vie là,
je peux comprendre. Non, mais je peux comprendre parce qu'avec ridicule. La qualité qu'il a.
Non mais ils sont ridicules, ils ont été ridicules hier.
Ouais, ils n'ont pas été mauvais, cela dit, Adrien, sur les deux matchs en plus.
Non, vraiment, ils ont été mauvais. Quand tu joues 10 minutes sur 2x90, avec les prolongations, puisqu'ils ont été jusqu'aux prolongations, le match, on doit le plier.
Les intentions étaient là, les occasions étaient là.
Non, mais en fait, déjà, je suis désolé, mais quand on a un gardien, un plot, déjà, c'est compliqué de pouvoir prétendre à une victoire. Ce type, le futur Neuer, mais arrêtez. Il a rien de meilleur par la nationalité. Enfin, il est ridicule à souhait. Il sert à rien. On a des défenseurs, franchement, des super attaquants. Ah, ils savent marquer. Par contre, ils savent pas défendre. C'est dommage parce que c'était à la base pour ça qu'on les appelait défenseurs. Enfin, c'était pour défendre. Et puis en attaque, c'est mignon. Ça joue à la baballe et ça revient en retrait. Et puis ça, à un moment donné, je sais pas, quand on a des
morts de faim,
comme le petit Mbolo, comme le petit Diop, comme qui envoie, qui casse les défenses. On va mettre un Voland, il est gentil Voland, mais il joue un match sur 5. Ben Yedder, c'est notre meilleur joueur, hein, notre meilleur attaquant, mais bon, jouer tout seul, ça a jamais fait une équipe. Il manque la Grinta. En fait, à Monaco, on a un excellent centre de formation, les plus grands joueurs et les plus grands attaquants de France. Hein. On va passer par les Trezeguet, les Henry, les Mbappé, tous les plus grands attaquants. Tous les sont sortis de la centre de formation de Monaco et on n'est pas fichu de faire quelque chose de correct. Moi, c'est simple, je suis partagé entre j'arrête de les supporter cette saison, je fais une pause et puis stop. Ou s'il vous plaît, faites juste honneur aux supporters parce que on dit qu'il y a pas beaucoup de supporters à Monaco. On est nombreux. Regardez tous les stades à l'extérieur, on fait partie des publics les plus nombreux. Il y a énormément de supporters. Juste faites-nous plaisir. Et aller nous chercher la Ligue Europa.
Mais c'est ça.
Juste ça. Oui.
Mais aujourd'hui, je sais même pas si.
Numéro 1 du club.
Je sais même pas si Monaco a cette envie-là. Quand je parle de Monaco, c'est tout le club. S'il y a cette réelle ambition, parce qu'avec l'effectif qu'ils ont, moi, je suis désolé. Bon, bien entendu que pour moi, bon, ils ont fait un bon recrutement avec Brel Mbolo, qui, je pense, moi, va se régaler en Ligue 1. Minamino, on va voir s'il est un peu mieux utilisé.
Pour l'instant, c'est compliqué. Ouais, c'est tout début. Hein.
Voilà, c'est compliqué. Mais moi, en fait, le problème avec Monaco, ce qui me frustre, c'est qu'en Ligue 1, je le disais tout à l'heure, Nico, ils vont jouer un mois et demi dans la saison, ça va leur suffire pour être tout là-haut. Sauf que dès qu'ils arrivent en Europe et qu'il y a un petit peu d'adversité, et là on parle plus des très grandes équipes européennes, hein. Là on parle du Shakhtar qui l'année dernière, après la qualification, avait terminé quand même quatrième de leur poule derrière le Sheriff Tiraspol. Là on parle du PSV Eindhoven. Moi je suis désolé, mais le PSV sur la double confrontation ne m'a pas impressionné tout.
On l'a dit hier pendant le live, hein. Le PSV, ils ont perdu 4 de 5 de leurs meilleurs buteurs de la saison dernière.
Exactement. Hein, et moi c'est ça qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui le gap entre Monaco qui sur une jambe presque peut faire le podium en Ligue 1, mais dès qu'ils arrivent face à des équipes européennes de bonne facture, hein, bien entendu, mais c'est pas le gratin. Bah, il y a comment dire, à chaque fois ils sont.
Alors, parce que vous ignorez le fond du problème.
À chaque fois ils sont
du problème. Il est devant nos yeux et on l'a pas dit depuis le début. C'est simplement que mis à part le Paris Saint-Germain, il faut qu'on arrête de penser que nos top clubs de Ligue 1, parce que Monaco c'est un top club de Ligue 1, on fait partie de la première division européenne. Les top clubs de Ligue 1 ne font pas partie de la première division européenne et peut-être même pas de la seconde.
C'est juste qualifié pour la phase de groupe de Ligue des Champions.
C'est ce que je te dis. On ne fait pas partie de la première division européenne et encore moins et de la seconde, j'en suis pas sûr. Et quand on voit les résultats qu'on a eu récemment contre les clubs néerlandais, quand on voit notre historique face aux clubs portugais, moi j'ai l'impression qu'on fait plus partie d'une troisième division. Et quand on dit que Monaco doit se donner pour objectif de gagner l'Europa League. Moi, je suis d'accord, ça serait un super objectif, mais on va pas rêver. Hein. Monaco peuvent avoir autant d'argent qu'ils veulent. L'argent n'est pas assez bien dépensé pour être en mesure de gagner cette Europa League. Et je pense qu'encore une fois, on est dans un problème de gestion du budget. Hein, on est dans un problème de gestion des clubs, dans un problème de où vont chercher nos scouts, qu'est-ce que font nos scouts, quel genre de joueurs on va.
Mais oui, comment c'est possible que tu joues avec Matazo à côté de Fofana sur un match
quand t'as 250 millions d'euros de budget, ce n'est pas possible. Et c'est simplement que tu travailles mal.
Adrien, vas-y Adrien.
Alors justement, je vais rebondir là-dessus parce que c'est excellent ce que vous êtes en train de dire. À un moment donné, je suis désolé, Matazo, il est mignon, il a fait un match et demi la saison dernière de bien. Le reste, je comprends pas ce qu'il fout là.
C'est pas contre lui, hein, mais.
Non,
il a 20 ans, Matazo, il est jeune.
Il y en a beaucoup. Je suis désolé, mais Jean Lucas, là.
Ça, c'est une énigme.
Lucas Todd là, parce que il est inutile. Il fait. Ah, franchement, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut avoir aucune mouette qui vient se poser sur le stade. Il fait que des tirs en l'air. Franchement, un excellent rugbyman. Il est exceptionnel, ce gars-là.
Ouais, plus, des mouettes à Monaco, c'est pas trop ça.
Non, on
ça
est va. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je suis désolé, mais là, il y a un match Real Madrid-Francfort. Je suis désolé, Francfort, franchement, et presque au niveau du Real, ils font un excellent match. Francfort, on parle de Francfort. Vous allez me dire que peut-être que Francfort,
qui a gagné la Bundesliga,
est plus mauvais que Monaco.
Mais Francfort, ils bouffent tous les clubs de Ligue 1 à part le PSG sur une double confrontation. Hein. Faut quand même regarder les choses en face.
C'est pas normal. Mais si c'est le cas,
c'est pas normal. Mais là, on parle de nos clubs dont la seule politique sportive, c'est de faire de l'argent. On parle de nos clubs qui sont incapables d'ouvrir, d'enlever leurs œillères quand il s'agit de recrutement. Et quand tu vois Monaco, 250 millions d'euros de budget, je te rejoins Walid, c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas être en Ligue des Champions. C'est pas possible d'avoir un effectif de cette qualité-là. Parce qu'attention, c'est un effectif qui est correct, mais avec 250 millions d'euros de budget, quand tu vois les clubs au Portugal ou aux Pays-Bas, tu devrais être capable de faire autrement mieux. Et cette espèce de confort dans lequel t'es installé tant financièrement que vis-à-vis de tes supporters, c'est en train de faire que ton club devient un petit peu anonyme.
Juste pour terminer très rapidement, c'est que la qualité de l'effectif, moi je pense qu'il y a des joueurs de grande qualité dans cette équipe. Sauf que le problème, c'est que quand tu parles du budget, plus tu rajoutes à ça les 120 bâtons de Tchouaméni, si tu m'expliques qu'aujourd'hui, quand tu as un rendez-vous aussi important... 100. Oui, enfin 100. Voilà. Ouais, 100
on n'est plus à 20 près.
90, si vous voulez. En tout cas, 80. Allez, on y va sur 80. 80 bâtons. Comment c'est possible de ne pas te renforcer sur les deux secteurs clés, défense centrale et milieu de terrain pour accompagner Fofana?
Alors,
On en a parlé un petit peu hier. Et c'est le problème que ne vit pas d'ailleurs que Monaco. Mais c'est que souvent, et d'ailleurs Monaco c'était un petit peu le cas, ils attendaient de savoir s'ils allaient être qualifiés en Ligue des Champions pour savoir qu'ils allaient recruter, combien ils allaient investir.
Mais c'est ça le problème. C'est que après, ils vont se retrouver comme l'année dernière avec le Shakhtar, où tu te dis il faut virer le coach très très rapidement parce qu'en fait notre objectif c'était d'aller en Ligue des Champions et il fallait valoriser nos joueurs. Oui, mais les copains, si vous faites pas le travail en amont, apprenez de vos erreurs.
On sait que cette troisième place, elle est un peu maudite, hein, pour les clubs français.
Ouais, mais d'accord.
Mais là, je suis désolé, vous avez raison. Quand t'as le budget et l'argent qui vient de rentrer là, ta cible d'une priorité en milieu de terrain, ça peut pas être Franck Zambo Anguissa. il a fait une très bonne saison hein, en
encore,
Italie.
Moi, etc. Jean-Bouanguissa, je le prends tous les jours à Monaco.
Ouais, mais Walid,
moi, je prends Sangaré du PSG.
Ou on parlait de Soumaré de l'Ajax, je le prends tous les jours.
Super, Tchouaméni. Pour le remplacer par Zambo.
Bah, Zambo, c'est un très bon.
Merci Adrien de nous avoir appelé au 32-16. Et tiens, dans quelques instants, on poursuit un débat un peu parallèle à celui-là d'ailleurs, hein, qui va dans le sens également. Avec cette élimination de Monaco, bah, finalement, c'est une élimination de plus d'un club français en tour préliminaire de Ligue des Champions. Sur les 7 dernières campagnes françaises en tour préliminaire de C1, il n'y a eu qu'un seul club français qui s'est qualifié, c'était Monaco d'ailleurs, en 2016-2017. Sinon, il y a eu plusieurs éliminations. On va vous donner le détail dans quelques instants. Comment vous expliquer ces échecs des clubs français? Est-ce que ça vous inquiète? On vous attend au 32-16. A tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
21h30, vous êtes sur RMC dans l'After en compagnie de Jonathan McCarty et Dwalid Acherchour, avec Clément Brossard également du côté d'Helsinki. Se joue ce soir la Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort. Et Clément, ils sont chauds, l'Eintracht, ce soir.
Ah, exactement, comme le disait notre auditeur tout à l'heure, on voit une belle équipe allemande face au Real Madrid qui joue crânement sa chance, qui domine même, en tout cas qui s'est créé plus d'opportunités. Alors le Real, comme à son habitude, eh bien, fait tourner le ballon et peut piquer à n'importe quel moment, mais ils ont été plus efficaces, en tout cas dans les transitions, les Allemands. On a vu tout à l'heure la première tentative de Jasper Lindstrom, celle de Ansgar Knauf également sur le côté droit qui est venu alerter une nouvelle fois Thibaut Courtois. Et puis là, ils vont obtenir un corner, les Allemands, qui continuent de pousser.
Ils font une belle demi-heure. Hein.
Exactement. Et puis ils ont le public avec eux aussi, il faut le rappeler, parce qu'il y a 40 000 personnes présentes dans ce stade d'Helsinki, le stade olympique.
C'est des tarés,
mais surtout
les supporters
beaucoup,
de l'Eintracht,
beaucoup d'Allemands. Ah, ouais. Et il y avait 8 000 billets vendus déjà pour les Allemands, 1 800 pour les Madrilènes. Donc vous imaginez qu'en plus des personnes qui viennent à Helsinki pour suivre cette rencontre, eh ben, il y a pas mal d'Allemands en plus. Et on l'a vu d'ailleurs au moment des hymnes juste avant le match, où celle de Francfort résonnait beaucoup plus que celle de la Maison Blanche. Corner à venir. Alors je ne sais pas si on peut le suivre, parce que c'est le premier coup de pied arrêté pour les Allemands, et ça peut être dangereux dans ce sens-là.
Pour ce qu'ils disent, Walid et Jonathan.
Il y a quand même des bons joueurs de tête côté Francfort, avec notamment Touta, le Brésilien, qui a sauvé tout à l'heure un ballon sur la ligne quand Vinicius a tenté sa chance. C'est parti pour les Allemands, ça va être frappé au point de pénalty. Touta était à la réception finalement. C'est une sortie de balle d'Eder Militao. Toujours 0-0 entre le Real et Francfort après 30 minutes de jeu.
Tiens, et Clément, puisque tu es là, toi qui a été notre correspondant du côté de la Côte d'Azur, notamment du côté de Monaco pendant un temps, t'en penses quoi là, de l'avis tranché de Walid qui dit on est trop gentil avec Monaco?
Bah, je pense surtout que il va falloir encore de la patience, mais que la patience arrive à son terme, et qu'à Monaco il y a une exigence de résultat, que Niko Kovac a été licencié, comme l'a très bien dit Walid, parce qu'il y avait ce manque de qualification en Ligue des Champions, et que Philippe Clément était censé incarner l'homme qui pouvait, sur une double confrontation, eh bien emmener Monaco en Ligue des Champions. On a vu que ça a failli encore une fois. Alors même si dans le coaching, en tout cas, une fois que le coach belge a fait ses changements, on a senti une équipe de Monaco beaucoup plus offensive et beaucoup plus dangereuse. Mais il va falloir encore qu'ils passent un cap. Et le vrai problème, et t'en as parlé tout à l'heure, Nico, c'est qu'ils attendent de savoir s'ils sont qualifiés en Ligue des Champions ou non pour faire le recrutement. Bah, oui. Et qu'Aurélien Tchouaméni, son absence, elle pèse énormément et qu'elle aurait dû être comblée avant. Donc Paul Mitchell a sa part de responsabilité sur cette défaite.
Ouais. Et dis-moi, il y a des petits bruits comme quoi ça pourrait déjà être chaud. Enfin, déjà, je sais pas s'il faut dire. Si, déjà, oui. Pour Philippe Clément, l'entraîneur de Monaco.
Ouais, alors on a quelques personnes qui nous appellent parfois, qui évoquent, qui sont plus ou moins proches du club, qui nous disent que la non-qualification de Monaco aurait pu entraîner le départ de Philippe Clément, pour avoir parler de ça avec quelques sources également plus ou moins proches du club. Pour l'instant, il n'en est pas question.
Ce serait une bêtise de plus.
Hein. Surtout qu'on a un discours de Paul Mitchell qui, depuis la fin de la saison dernière, table sur la stabilité. Comme quoi, il a parlé avec Dimitri Ribolovlev que c'en est fini du temps où on changeait d'entraîneur tous les ans et demi. Et puis aussi, c'est lui qui a fait plus ou moins le choix d'amener Philippe Clément, Paul Mitchell.
Ouais, parce qu'en fait, tous les ans, ils font le coup. C'est-à-dire qu'ils terminent très bien la saison. Il y a le coup de bambou en barrage. Et c'est terminé. Allez, et après rebelote, on refait la même chose. À un moment donné, il va falloir
c'est ce que dit Clément hier après l'élimination.
Il va falloir stabiliser un coach et faire une vraie saison en Ligue Europa, aller chercher cette deuxième place, cette vraie deuxième place pour aller en Ligue des Champions et ne pas se retrouver dans la même situation, et surtout vraiment recruter au poste clé.
Il y a être constant sur l'ensemble de la saison, puisque ça fait quand même deux saisons de suite que Monaco se réveille dans le spectre final.
L'année dernière, mais je me rappelle, ils commencent leur saison après le match contre le PSG, où ils tombent sur un PSG groggy de leur élimination contre le Real Madrid. Ils mettent un 3-0, je crois que c'est un dimanche 13h, et derrière ils enchaînent. Mais avant ça, pour moi, c'était inespéré de voir Monaco sur le podium.
Allez, 10 minutes à jouer en tout cas dans cette première période de la Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort. Toujours 0-0 hein, entre le Real et l'Eintracht. Match plutôt sympa du côté
le Real au petit trou, hein, Clément.
Oui, oui, mais ils font tourner le ballon. Alors on voit pas mal de mouvements, notamment de la part de Vinicius. Karim Benzema est très peu trouvé depuis le début de la partie, mais ils sont, j'ai l'impression, mangeant dans les duels, surtout les Madrilènes, parce que Francfort a l'air d'en vouloir beaucoup plus. Alors ils ont déjà entamé leur saison aussi, peut-être que ça compte, puisqu'ils ont certes pris une sacrée rouste contre le Bayern Munich 6-1 lors de la première journée, mais le début du championnat pour le Real, ce sera que dimanche prochain à Almeria. Donc ils ont déjà la compétition dans les jambes, les joueurs de Francfort. C'est peut-être ça qui fait la différence après 34 minutes de jeu. Mais toujours pas de but inscrit pour l'instant à Helsinki.
On va aller retourner du côté de Monaco, puisqu'on y était, mais pour de la clé cette fois-ci. Il y a le meeting de Monaco ce soir qu'on vit avec Samir Hammoudi. Il y a le 200 mètres qui va débuter dans quelques instants, hein, Samir.
Ouais, le 200 mètres masculin qui va venir avec la présentation des athlètes et la plus belle course de ce meeting de Monaco qui a été encore une fois grandiose. Et Noah Lyles qui est devant les écrans, devant le public, c'est le champion du monde du 200 mètres. Ce garçon est en train de révolutionner la discipline. Si vous avez suivi les championnats du monde à Eugene il y a deux semaines, il a réalisé le 200 mètres en 19-31. Il a battu le record mythique de Michael Johnson et s'approche de celui d'Usain Bolt. Mais attention, parce qu'à l'intérieur, juste derrière lui, il y a une nouvelle pépite. Un nouveau phénomène, Arion Knighton, 18 ans seulement, qui a fini 3e des championnats du monde de Eugene et qui a un record personnel en 19-49. Il a battu tous les records de précocité du Usain Bolt. C'est vous dire le talent de ce garçon. Et puis au couloir numéro 5, juste derrière lui, Michael Norman, c'est le champion du monde du 400 mètres. Il est venu aujourd'hui tester un petit peu sa vitesse en coupant sur le 200 mètres, mais lui aussi est bourré de talent avec un record personnel à 19,70. C'est un garçon qui a déjà battu en plus Noah Lyles en confrontation directe. Michael Norman et Noah Lyles sont à un partout, donc ça pourrait être le juge de paix, ce 200 mètres masculin du côté de Monaco. Et puis attention, puisqu'il y a aussi un Français au couloir numéro 1 qui a été invité, Michael Zézé, qui à la Chaux-de-Fonds au début du mois de juillet a réussi l'époustouflante performance de réaliser moins de 10 secondes et moins de 20 secondes sur 100 mètres et 200 mètres, tout ça dans la même journée. Donc confirmation peut-être pour Michael Zézé, mais on va surtout suivre les couloirs extérieurs dont je vous ai parlé. Au 5, Michael Norman. Au 6, Arion Knighton. Au 7, Noah Lyles, l'Américain champion du monde en titre.
Allez, le 200 mètres qui va débuter, 200 mètres hommes au meeting de Monaco avec Samir Hammoudi.
Allez, les garçons se mettent dans les starting blocks. Beaucoup d'intensité, beaucoup de public venu en nombre aussi au Louis II. Vous qui parliez de football, ça change un petit peu l'atmosphère, toujours.
C'est marrant, hein. Je l'attendais celle-là, Samir.
Je suis désolé, Nico, hein, je suis obligé de la placer. Allez, les garçons sont dans les blocs, ça va pouvoir démarrer, je vous le rappelle, Noah Lyles à l'extérieur au 7, Arion Knighton au 6, Michael Norman au 5, un œil sur Michael Zézé au couloir numéro 1.
Allez, ça va partir dans le 200 mètres homme avec Samir Hammoudi sur RMC.
Allez, c'est parti avec un très bon départ à l'extérieur du Canadien Aaron Brown. Mais Noah Lyles est en train de fournir son effort dans le virage. En sortie de virage, il est en tête. Attention à Arion Knighton et Michael Norman qui essayent de lui résister. Noah Lyles est en tête. Et Arion Knighton qui veut résister. Mais il est tout seul, seul en piste. Piste aux étoiles pour Noah Lyles. Noah Lyles qui va s'imposer. 19-45, record du meeting. Il continue sa voie lactée. Il est parti dans les étoiles, ce garçon. Après ses 19-31 de Utah. 19-45, c'est corrigé, 19-46, mais encore une performance exceptionnelle pour Noah Lyles qui continue encore d'affoler les chronos. Et je vous le dis, je l'ai annoncé depuis plusieurs années maintenant et depuis 2017, le record du monde du Usain Bolt est en danger avec Noah Lyles.
Merci beaucoup Samir. Et pendant ce temps-là, ça bouge en Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort, Clément Brossard.
Avec le premier but du Real Madrid à l'instant, on disait pourtant que Francfort avait plutôt mieux démarré cette rencontre. Et bien c'est Vinicius qui sur le côté gauche tente une frappe enroulée, c'est détourné en corner par Kevin Trapp. C'est sur le corner qui suit justement, où après une combinaison de tête et notamment celle de Benzema qui sert Casemiro juste devant la ligne de but. Et derrière, et bien c'est le défenseur central David Alaba qui n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets de Kevin Trapp. Ça fait un but à 0 pour le Real à 7 minutes de la pause.
Benzema encore au départ. Ils sont fait une petite brésilienne de tête.
Non mais c'est un but, ça passe,
ouais,
à Benzema.
Ouais. Il gagne son duel, tête pour Casemiro. Casemiro qui sent bien le coup.
Ouais.
Et Alaba qui est toujours opportuniste dans la surface de réparation. Mais mais c'est plutôt mérité sur les 2-3 dernières minutes parce qu'ils ont eu des situations quand même assez dangereuses et le Real, voilà, c'est le Real Madrid. Ça sort une fois, deux fois et ça fait but, ça fait mouche.
Heureusement qu'il y a Vinicius quand même dans cette rencontre. Ouais. Attention à la réaction quand même de Francfort et réclamer une main l'attaquant colombien Raphaël Boré, mais rien pour l'arbitre anglais monsieur Oliver. Ouais, je disais Vinicius qui est peut-être le seul danger du Real dans ce début de partie,
comme d'habitude,
parce que on voit pas trop Valverde notamment faire des courses et apporter le danger dans la surface de réparation de Francfort. Benzema est toujours très très peu servi, donc il y a un élément moteur pour l'instant pour le Real, c'est Vinicius. C'était d'ailleurs de lui, du Brésilien, qui est venu le but qui a entraîné le corner, surtout qui a amené le but derrière.
Ils aiment bien endormir les rencontres comme ça et jouer avec Benzema, Vinicius pour faire la différence.
Allez, à 6 minutes de la pause, le Real mène en Super Coupe d'Europe 1-0 face à l'Eintracht Francfort. Nous, on va revenir à notre débat, celui justement qui concerne les clubs français en tour préliminaire de Ligue des Champions. Monaco éliminé hier donc par le PSV Eindhoven. Le foot français qui se fait sortir une nouvelle fois des tours préliminaires de C1. Alors, fact-checking, sur les 7 dernières campagnes françaises en tour préliminaire de Ligue des Champions, une seule s'est soldée par une qualification, c'était Monaco en 2016-2017. Sinon, on a eu les éliminations de Monaco, pas cette saison, en 2016 et en 2022, Nice en 2018, Lille en 2015 et Lyon en 2014, donc une qualif sur les 7 dernières.
C'est date, c'est ça ?
Lyon, ouais.
2014.
Ouais. On a eu Lille face à Porto.
Exactement.
Porto de Brahimi. On a eu Monaco face à Valence. On a eu Monaco face à Villarreal qui s'était qualifié. Ouais, c'est la seule qualif.
Villarreal,
on a eu Nice face à Naples. Et on a eu Monaco face au Shakhtar la saison dernière.
Mais écoute, moi, j'ai envie d'étendre ta question.
Alors, je vous pose la question. Comment vous l'expliquez ? On vous attend en 32-16 pour y répondre.
Mais moi, je vais étendre cette question-là avant qu'on débatte sur le pourquoi du comment. Mais c'est quel club français sur les 10 dernières années ne s'est pas pris une honte monumentale en Coupe d'Europe? Il n'y en a aucun. Tous les clubs français qui ont participé à la Coupe d'Europe ont fait honte au moins une fois au championnat de France, à la Ligue 1 et à la France. Le Paris Saint-Germain n'a pas la peine de les énumérer, hein, c'est des habitués, ceux qui portent l'étendard de la honte française en Coupe d'Europe. Marseille, il y a eu les 0 points et puis la phase minable avec André Villas-Boas.
L'Olympique Après, Lyonnais, PSG porte la honte, mais un peu plus haut quand même.
Oui, un peu plus haut, mais c'est quand même des hontes qui ont eu un autre retentissement.
Parce qu'entre le barrage
Walid, c'est quand même le cirque Pinder, le PSG. L'Olympique Lyonnais, certes, il y a eu cette belle performance en Coupe Covid, mais il y a quand même eu de nombreuses fois où ils sont pris les pieds dans le tapis. Et même si c'est en demi-finale, ne pas se qualifier pour leur finale de Ligue Europa au Parc OL, c'était quand même une grosse désillusion. Monaco, on a énuméré le fait de pas passer les phases préliminaires contre des clubs qui ont deux fois moins de budget, que ça reste quand même inexplicable. Moi, je suis désolé, le football français en Coupe d'Europe, c'est une catastrophe depuis de nombreuses années. Et c'est pas les pauvres petites épopées du Paris Saint-Germain, dont cette finale en Coupe Covid, qui vont mettre le voile sur le reste. Les clubs français sont minables en Coupe d'Europe.
T'as raison, mais d'un autre côté, si la France aujourd'hui a ce classement ranking UEFA, c'est qu'ils engrangent les points. On rappelle, c'est calculé sur les 5 dernières saisons, donc c'est que les points sont là. Même si, on le rappelle, alors c'est très important ce qui est en train de se passer cette saison avec la réforme de la Ligue des Champions en 2024, parce que c'est calculé sur les 5 dernières saisons, et en 2024, la 5e saison la plus ancienne, elle va sauter, c'est celle où il y a beaucoup de points pour les clubs français, notamment avec les Néerlandais qui sont derrière. Mais comment vous expliquez le fait que je parle pas de l'Europa League, parce que souvent on a dit ça manque de motivation en C3. Alors en Europa Conférence, on en parle même pas de la part des clubs français. Mais là, en tour préliminaire de Ligue des Champions, comment vous expliquez que les clubs français aient une qualif sur les 7 dernières campagnes?
C'est très simple. C'est que on ne doit pas être surpris parce que la majorité de l'opinion footballistique en France surcote trop fortement les clubs domestiques. Et je suis désolé, les clubs qui sont aux Pays-Bas, qui sont au Portugal, qui se qualifient pour ces phases finales, pour ces phases de poule de Ligue des Champions, qui ont parfois deux fois moins de budget que nos supposés gros clubs français, sont bien meilleurs parce qu'ils travaillent mieux, parce qu'ils valorisent mieux l'argent qui est à disposition, choix dans le recrutement, et parce que au final, quand ça donne la vérité du terrain, quand tu as un club comme Eindhoven qui a je ne sais pas quel budget, mais c'est certainement beaucoup moins que Monaco, et avec les avantages fiscaux en moins de Monaco, et ça donne une équipe qui est beaucoup plus sûre de ses forces.
Le problème, c'est que
faut qu'on arrête de se voiler la face sur le niveau de ces clubs-là, le niveau de Lyon, le niveau de Monaco. Et surtout qu'on arrête de sous-estimer les clubs comme le PSV, comme le Feyenoord, comme les clubs au Portugal.
Non, mais en fait, le problème avec ce débat-là, c'est que pour moi, on ne peut pas tout englober. En fait, tu es obligé de faire du cas par cas, parce que en fait, avec la vision tout en noir
Nice, c'est pas Lyon. Non, mais
avec la vision tout en noir de Jonathan, en fait, moi, elle me dérange. Et pourtant, je partage quand même globalement la déception et la frustration qu'il peut avoir, parce que moi, je sens beaucoup de frustration dans ce qu'il dit. C'est que bien entendu qu'on a de la qualité, bien entendu que sur beaucoup de moments clés, on passe à côté. Maintenant, moi, je suis désolé, mais Lyon a fait demi-finale de Ligue des Champions il y a 3 ans, même si pour lui c'est la Coupe Covid.
C'est pas okay, la Ligue des Champions.
Mais tu sors quand même Manchester City et la Juventus. Pas sûr que le PSV là, sur les 2-3 dernières années, on fait la même chose. Tu prends Monaco, ils avaient sorti City et Dortmund à l'époque, ils avaient fait demi-finale de Ligue des Champions. Tu prends le PSG, hormis la Coupe, alors apparemment il y a la Coupe Covid, mais l'année d'après, ils sortent quand même le Barça et le Bayern en Ligue des Champions. Alors je sais pas c'est quoi l'explication là de Jonathan, mais ils les ont quand même sortis et avec la manière, je pense, notamment contre le Barça. Voilà, maintenant c'est vrai que il y a des matchs témoins, des matchs clés où on est déçu
parce que le PSG avec le budget de temps à autre fait quelque chose dans Ligue des Champions.
C'est pour ça qu'en fait il faut prendre les clubs
quand t'es détenu par un État souverain avec les fonds limités, tu vois.
C'est pour ça que tout n'est pas jeté, tout n'est pas mis. Tout n'est pas.
Tu me cites une épopée de Monaco, une épopée de Lyon. Le problème c'est que quand tu me cites un exemple, on tombe dans l'anecdote.
Mais l'épopée du Shakhtar, c'est quoi l'épopée du Shakhtar?
Mais on s'en fout du Shakhtar, non, mais là, des clubs, là. Des clubs de Ligue 1.
Non, mais d'accord,
je m'en fous du Shakhtar.
Mais tu compares avec ces clubs-là.
Mais
le PSV Eindhoven, là, récemment, c'est quoi les épopées?
Ils ont éliminé Monaco.
Oui, d'accord. Mais c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut faire du cas par cas. Il faut, je pense, avoir une analyse beaucoup plus fournie et beaucoup plus. Parce que hier, moi, ce que je vais reprocher à Monaco, c'est pas les intentions. Contre le Shakhtar l'année dernière et cette année contre le PSV Eindhoven, j'ai préféré les matchs de Monaco que les matchs des Ukrainiens et des Hollandais. Le problème, c'est que je trouve qu'ils ne mettent pas, tout en œuvre pour se donner les moyens de se qualifier et qu'ils ne tirent pas les conséquences de leurs échecs passés. Mais globalement, c'est de la naïveté qu'on a vu avec Monaco. Ce n'est pas la qualité brute. Moi, je suis désolé, mais j'ai vu des joueurs, moi, au PSV Eindhoven, qui m'ont globalement déçu.
C'est anecdotique ce que tu dis. Oui, quand tu es Monaco, avec le budget que tu as, tu dois te qualifier face au PSV Eindhoven.
Jonathan,
l'argent ne fait pas tout.
Ouais. Mais l'argent ne fait pas tout, c'est la manière dont tu l'utilises. Et le problème, c'est ça que moi je soulève, c'est la manière de travailler nos clubs français qui n'est pas à la hauteur. Et il y a un juge de paix, il y a un révélateur, c'est la Coupe d'Europe. Et en Coupe d'Europe, on voit bien que les lacunes et les errements dans la gestion des clubs, dans le travail qui est fait sur le moyen terme, tu les payes cash
Tout n'est pas éliminé. Noir. Lyon a battu Porto l'année dernière. Porto, il me semble que c'est quand même une équipe, c'est l'équipe qui vient de gagner le championnat portugais.
C'est surtout une équipe qui a une vraie expérience européenne.
Qu'est-ce qu'on dit? Lyon a battu Porto l'année dernière.
Ils ont fait quoi?
Ils ont perdu contre West Ham. Voilà. Tout n'est pas noir ou blanc. Moi, je pense que venir et dire.
Je pense pas que Lyon devrait ambitionner un petit peu mieux. Moi, je te parle pas de qui ils ont battu, je te parle en termes de parcours. Tu penses pas que Lyon devrait ambitionner d'être un vainqueur dans ce genre de Coupe d'Europe?
Bien sûr, et on le dit tous les ans. On le dit tous les ans. Mais pourquoi on n'y arrive jamais? Quand ça gagne contre ces équipes-là, faut aussi le dire.
Mais on le dit, Walid, mais pourquoi on n'y arrive jamais? Le problème, c'est que je veux bien t'écouter et je suis d'accord avec toi. Mettons un peu d'eau dans notre vin. Mais le problème, c'est que si tu tire des conclusions, tu remontes sur les 5-6 dernières années, ce qui me semble être assez raisonnable.
Mais moi là, je parle attention.
C'est quand même assez chaud.
Non, mais surtout là, je pose la question. Encore une fois, je parle même pas de l'Europa League, etc. Moi, je parle des trous préliminaires de Ligue des Champions. Et là, alors là où je rejoins un peu Walid, c'est que, moi, quand je vois Nice qui se fait sortir par le Napoli, c'est pas vraiment. Lille qui se fait sortir par la Real Sociedad, on peut parler. Lille qui se fait sortir par Porto. C'est normal. Il y a une certaine logique finalement à ce moment-là. Oui. Et surtout, les adversaires sont pas forcément toujours les mêmes non plus. Il y a des clubs qui ont plus d'expérience, qui ont peut-être moins de budget, mais plus d'expérience.
Là, moi, dans mon raisonnement, je n'ai pas pris en compte Lille et Nice qui étaient là. C'était pas anecdotique, mais c'était un coup. C'était un coup d'une saison. Et puis effectivement, que le Nice se fasse sortir par Napoli, c'est normal. C'est comme quand Toulouse s'était fait sortir par Liverpool. Oui. Tu vois, c'est normal. C'est déjà bien d'y être. Mais des clubs comme Monaco, comme Lyon, comme Marseille, qui a fait 0 point et une campagne désastreuse avec Villas-Boas, ce n'est pas normal. Quand tu es ces 3 clubs-là, que tu as ce budget-là, tu dois au moins faire bonne figure en phase de poule. Tu dois au moins passer les tours préliminaires et tu dois, je suis désolé, être un candidat à la victoire finale en Europa League. Non, et malheureusement, ce n'est jamais le cas.
Les gars, on va poursuivre le débat dans quelques instants.
Finale d'Europa League il y a 3 ans.
Avec Damien notamment qui nous a appelé au 32-16 et qui est lui aussi supporter de Monaco. Juste avant ça, c'est la mi-temps en Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort, Clément Brossard.
Exactement, mi-temps au Stade Olympique d'Helsinki. 1-0 pour le Real Madrid qui a, depuis ce but de Alaba à la 37e minute, et bien clairement mis le pied sur ce ballon. On ne voit plus trop les hommes de Francfort qui ont pris certainement un coup sur la tête. Ils avaient pourtant bien démarré cette partie, les joueurs du club de la S. Alors la S, la région, hein, c'est pas la S, la galère. Mais en tout cas, ça fait un peu 2-0 à la pause pour L'Oréal.
Excellent. Les vannes de la
Côte d'Azur. Je prends.
Il est bon, Clément. En plus d'être beau, il est beau.
Il a même eu la bonne prononciation.
Ouais. Si, il est beau, arrête. Ouais. Nicolas Drou me dit au beau, bien sûr que si, il est beau.
Et c'est Nicolas Drou qui dit ça en plus.
Ouais, ouais. Oh, sympa.
Belle ambiance en tout cas.
Pourquoi les clubs français galèrent-ils autant en tour préliminaire de Ligue des Champions? Vous attend en 32-16 pour y répondre avec Jonathan Macardy et Walid Acharchour. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Jonathan Macardy, avec Walid Acharchour, c'est la mi-temps, tiens, en Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Eintracht, et le Real mène 1-0 face aux Allemands, le Real qui avait remporté la Ligue des Champions, vous le savez, face au vainqueur de l'Europa League. On était en plein débat capillaire, hein, pendant la pause, sachez-le, c'est super intéressant.
Ouais.
Voilà, Jonathan voulait savoir à quel moment Walid avait décidé de raser.
Oui, je lui dis janvier 2020.
Parce que la qualité était trop forte.
Exactement, parce que ça commençait à devenir un petit peu, bon, c'est pas radiophonique ce que je vais dire, mais un peu, effilé façon oignon devant.
Effilé façon oignon.
Exactement, il y avait une scission vraiment entre deux parties de.
Ah, tu nous as dit que ça ressemblait à Bouteflika.
À Bouteflika, oui.
Ah
oui. Oui, un peu, ça faisait un peu Bouteflika.
Ah oui.
Et donc, malheureusement, à ce moment-là, j'ai dit, on va raser le kiwi.
T'as un peu plus de vitalité, quand même.
Voilà, on va raser le kiwi.
Alors, les gars, on était en train de se faire le bilan des clubs français en tour préliminaire de Ligue des Champions après l'élimination de Monaco hier face au PSV Eindhoven. Je vous le rappelle, une qualif sur les 7 dernières campagnes françaises en tour préliminaire de Ligue des Champions. Et on a Damien, supporter de Monaco, qui nous a appelé au 32-16 depuis la merveilleuse ville de Saint-Germain-en-Laye. Salut, Damien.
Bouteflika, à ce moment-là, qui nous a quittés.
Salut. Messieurs, bonsoir. Oui, bonsoir aussi.
Salut Damien.
Salut Damien.
Alors, comment t'expliques, toi, le fait que les clubs français galèrent autant ces dernières saisons en tour préliminaire de C1?
Je parlerai de façon plus générale en Coupe d'Europe, en fait. Je pense qu'on a tout simplement une culture des matchs européens au niveau football qu'on n'aborde pas de la bonne manière. On voit des effectifs des fois qui sont inférieurs. Alors je parle du match d'hier forcément. Sur les deux matchs, on voit pas Monaco particulièrement inférieur au PSV.
Exactement.
Effectivement, il y a des occasions pour hier gagner le match. On serait pas en train d'avoir ce débat là ce soir. Maintenant, on a la pour les supporters, la douce et mauvaise habitude de voir ça depuis deux saisons. Et si je regarde de façon beaucoup plus large, depuis moi qui ai une quarantaine d'années, ça a toujours été la même chose en fait. On s'aperçoit que très peu de clubs français, et c'était à chaque fois des coups, il n'y a jamais un club français qui, sur la scène européenne, a réussi à dominer, excepté PSG sous l'ère Canal+, et là l'ère Qatari, Marseille, les années tapis. Et quand on regarde des clubs comme Rennes, je me souviens d'Antonetti qui disait chaque saison le pain quotidien c'est le championnat.
Ouais.
Ça se bataille 38 journées pour faire l'Europa League pour le enfin.
Lille aussi avait tenu ce discours il y a quelques années en C3.
Et finalement tu fais deux tours et tu te fais sortir par des équipes qui sont pas forcément toujours plus fortes que toi. Donc là ça montre quoi? C'est pas des problèmes d'effectifs, de qualité de joueurs j'entends, dans le sens où les joueurs français c'est ceux que tu retrouves dans quasiment le plus de championnats. Enfin.
Ouais mais Damien, je te coupe deux secondes.
Ouais.
Là on parle d'un tour préliminaire de Ligue des Champions.
Ouais.
Ce que tu dis là concernant Rennes et moi je le disais pour Lille, c'était pour l'Europa League. En mode ça rapporte pas assez d'oseille, on veut pas jouer le dimanche soir.
Si tu veux, c'est pareil. Quand tu n'y mets pas les ingrédients qu'il faut mettre sur un match européen, c'est-à-dire une intensité, une envie de se dépasser à 120%, l'idée d'être clinique, avoir une marge d'erreur la plus minime possible. Hier, tu vois les trois buts, tu prends trois buts, sans déconner, tu les vois venir avant qu'ils arrivent. En Ligue 1, peut-être que ça passe.
Surtout, ce qui est problématique, et c'est vrai que t'as raison d'insister là-dessus. Je trouve que quand même par rapport aux dernières années, dans les intentions, dans le contenu, dans l'approche football, je parle pas mental, etc. Parce que pour moi, c'est vrai que mentalement, dès que il y a un petit temps faible, ça commence à être très très compliqué. Mais dans l'approche football, je trouve que quand on regarde les dernières échéances, je trouve qu'on est souvent dans le bon côté club français. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à matérialiser nos temps forts. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à compenser nos temps faibles.
Ouais.
Parce que je vous prends un exemple. PSV Eindhoven Monaco, l'année dernière, sous Kovac.
Ouais.
Il gagne à l'extérieur. Si on regarde le match contre le PSV l'année dernière, c'était un match totalement différent de cette année, où on a une équipe de Monaco attentiste, hein, qui défend très très bas et qui essaye d'exploiter en contre le PSV. Mais tu regardes le match l'année dernière, le PSV mérite 100 fois plus de gagner la rencontre l'année dernière que cette année.
Et pourtant,
c'est à peu près les mêmes équipes.
Non, on s'en moque parce qu'il compte là. C'était sur le aller-retour, c'était la qualif.
Mais c'est juste pour vous dire
la qualif une fois de plus, elle y est pas.
Mais ce qui veut dire, c'est qu'en termes de contenu, finalement c'est mieux maintenant.
Après, en fait, le problème c'est quoi?
C'est que non, mais Jonathan, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de se qualifier.
Non, mais si tu veux, en fait, on peut juste dire flash résultat, Monaco a perdu, donc c'est mal. Ou on peut expliquer, encore une fois, s'il y a eu
une simple défaite, Wally. C'est pas une victoire, une simple défaite. C'est une élimination qui conditionne le reste de ta saison. C'était un des moments clés de ta saison. Tu devais répondre présent. Et encore une fois,
mais on essaie de trouver des explications. On essaye de d'avoir une analyse globale. Et je dis juste que quand tu vois, et c'est pour ça que pour moi le facteur mental est hyper important, et c'est pas forcément uniquement juste sur le football, parce que l'année dernière cette équipe-là qui a pas grandement changé, tu n'as pas perdu à l'aller et au retour en Europa League.
C'est dans la discipline, dans la rigueur que tu imposes tous les jours au quotidien à tes joueurs, qu'il les formate mentalement pour justement répondre présent.
J'ai fait un avis tranché il y a 10 minutes dessus, donc je vais pas être en désaccord avec toi. Mais voilà, là-dessus. Mais si on va un peu plus loin.
Mais on retombe sur une chose, on retombe sur la manière dont travaillent les clubs. On pourrait faire le parallèle avec ce qui s'est passé, la pseudo-révolte des joueurs à Marseille à cause des méthodes d'Igor Tudor. C'est simplement que dans les clubs, il y a un manque de sérieux dans le travail sur le moyen terme, mais aussi en termes de discipline.
Et le niveau foot, je suis persuadé qu'encore une fois, on n'est pas en dessous.
Je te rejoins. Mais moi, je te parle du niveau de discipline et d'exigence que la Coupe d'Europe demande.
On remercie Damien de nous avoir appelé au 32-16. Je vous remercie également, Jonathan et Walid.
Merci, voilà. Dynamique.
Voilà, merci,
t'es bien animé par Nico Villas.
On remercie Nico Lodry également à la production. Ouais, je sais. Suzanne Folli également à la réalisation. Et puis l'after se poursuit, bien sûr. Il y a Stéphane Guy,
une grosse équipe,
Kevin Diaz et Gilbert Rivoire.
Ah ouais, d'accord. C'est un gros trio. C'est la BBC qui reprend la MSN.
Il arrive. Il faudrait lui demander, lui, à quel moment il a décidé de raser aussi.
Ouais,
enfin, est-ce qu'il a eu le mode. Est-ce qu'il a eu la période oignon et filoché?
Oignon et filoché? Je sais pas.
Il a rasé la tête de Kiwi.
Allez, à tout de suite.